Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Éduque Demain. Ce podcast s'adresse aux acteurs de la vie du jeune enfant, parents, professionnels de la petite enfance, mais pas que, à toutes les personnes qui de près ou de loin sont à mon sens des éducateurs impactant nos adultes de demain. En fait, je suis Luana, éducatrice de jeunes enfants, j'ai depuis une dizaine d'années plusieurs casquettes dans le domaine de la petite enfance. Éduque Demain, c'est des échanges de pratiques, de connaissances, d'expériences et de conseils pour mieux comprendre l'enfant, l'aider à grandir sereinement. Ici, on abordera sans tabou, avec bienveillance, la réalité de notre quotidien avec authenticité. À travers Éduque Demain, ma mission est de libérer la parole. J'ai envie de faire évoluer cette mission avec vous. Maintenant, c'est donc parti pour un nouvel épisode qui, je l'espère, vous aidera à lâcher prise pour plus d'épanouissement professionnel et personnel. Bonne écoute! Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouvel épisode. Durant cet épisode, je vous invite à vous mettre dans la peau d'une directrice de crèche. C'est important pour moi de mettre en lumière le travail des professionnels petite enfance. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Corinne au micro. Bonjour Corinne.
Bonjour Luana.
Ben écoute, merci beaucoup de ta présence et surtout d'avoir accepté mon invitation.
Merci à toi de m'avoir invitée.
Donc aujourd'hui, on va parler de ton parcours, de tes expériences. On va pouvoir te découvrir tout simplement. Alors Corinne, parle-nous un petit peu de toi.
Je suis Corinne, je suis originaire du Bénin, mais j'ai grandi en Italie. Je suis une jeune maman d'un garçon de 2 ans et je suis aussi une directrice de crèche.
Et est-ce que tu peux justement nous parler un petit peu de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à être tout simplement directrice de crèche?
Alors, mon parcours, c'est un peu compliqué de le résumer en quelques mots. J'ai une formation, j'ai une licence en sciences de l'éducation. J'ai passé toutes mes années d'école en Italie, mon diplôme en Italie. Suite à cela, j'ai décidé de déménager ici en France et quelques mois après, j'ai trouvé du travail en tant qu'éducatrice de jeunes enfants dans une crèche. Cela a été compliqué au début parce que je me suis aperçue qu'il y avait plusieurs différences dans la vision de la petite enfance. En Italie, il faut savoir que la formation est plutôt théorique que pratique. J'ai découvert après que il y a pas mal d'heures de stage dans les formations françaises, alors que c'est pas le cas en Italie. Du coup, oui, la vie professionnelle sur le terrain pour moi était très très compliquée au début parce qu'il fallait gérer une section, il fallait être responsable d'une équipe. Et il fallait du coup être dans l'organisation du temps d'accueil du jeune enfant et aussi gérer aussi son propre équipe de la section, ce que j'avais pas l'habitude en Italie et j'avais pas non plus les compétences nécessaires à ce rôle. Mais ça a été un défi pour moi parce que j'ai appris énormément sur le terrain, j'ai appris énormément sur la vision, on va dire, française de l'éducation du jeunes enfants. Et du coup, ça m'a aidé à grandir dans ma profession. Ça m'a aidé aussi à m'épanouir dans ma profession parce que en apprenant des nouvelles choses, je me suis sentie capable de pouvoir continuer à cultiver cet amour pour la petite enfance. Du coup, je suis actuellement directrice d'une crèche après 3 ans d'expérience sur le terrain. Mais c'est avec fierté que je peux dire aujourd'hui que ces 3 ans du terrain m'ont énormément formée. Car sans cela, je ne pense pas que je pourrais être, on va dire, je pourrais arriver à gérer une crèche aujourd'hui.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, je dirais, de ton quotidien en tant que directrice et en quoi consiste ton travail?
Le quotidien en tant que directrice. Alors, il y a plusieurs choses à faire en tant que directrice. Il faut savoir que c'est très, très important l'accueil des familles parce que pour pouvoir accueillir les enfants, il faut rassurer les familles, il faut créer un lien de confiance avec elles. Et il faut en même temps créer un lien de confiance avec son équipe pour que le travail et les objectifs qu'on a envie d'atteindre puissent, on va dire, se réaliser concrètement dans le quotidien pour le bien-être des enfants. Du coup, oui, c'est très dur des fois parce qu'il faut être aussi à l'écoute des équipes et des familles. Et il faut tenir en compte que les protagonistes de notre mission, c'est les enfants.
C'est ça.
Et leurs besoins, leur envie de grandir, les accompagner dans l'épanouissement de leur curiosité, on va dire. Du coup, oui, c'est un défi. Je peux dire que c'est un défi au quotidien. Parce qu'il faut être disponible pour tout le monde, mais en même temps garder en tête que c'est les enfants avant tout.
Justement, je vais rebondir, tu as répondu un petit peu à mes questions, des enjeux et des challenges, mais le plus gros défi pour toi à relever serait lequel? Parce que si j'ai bien compris, tu es aussi maman. Donc concilier les deux, comment toi tu vis les choses?
Alors, je pense qu'il faut beaucoup d'organisation pour pouvoir, je pense pour tout travail, hein, il faut beaucoup d'organisation pour pouvoir concilier la vie personnelle avec la vie professionnelle. Il faut aussi être épaulé par, j'ai envie de dire, la famille, parce que ça peut être un peu plus compliqué si on est tout seul. C'est vrai que gérer une crèche et après gérer sa propre famille à la maison, ça demande énormément de force et énergie, j'ai envie de dire. Mais j'ai la chance quand même d'être bien entourée. Du coup, oui, c'est compliqué, mais je suis épanouie dans ce que je fais.
Bon, je dirais que c'est le plus important justement. D'avoir l'épanouissement professionnel et l'épanouissement personnel. Mais du coup, moi, la question qui me vient, quels seraient pour toi peut-être les avantages et peut-être les inconvénients de ton métier?
Alors, je vais commencer par les inconvénients. Alors, les inconvénients pour moi aujourd'hui, c'est tout simplement arriver à respecter le temps de travail. Sans déborder, sans faire trop d'heures supplémentaires, parce que cela a énormément impacté, on va dire, négativement ma vie personnelle durant ces derniers mois. Du coup, le défi pour moi, c'est du coup de respecter le temps de travail. Et une fois terminé mon travail, il me dit que je ne peux pas tout terminer aujourd'hui et que demain est là et il faut que je laisse quelque chose aussi pour demain. Mais ça dépend, je pense aussi de moi, de me dire, organise-toi pour que... Je ne pense pas que c'est question d'organisation, je pense que c'est question de se dire on ne peut pas tout faire. Mmh. On ne peut pas être partout, on ne peut pas... on ne peut pas tout faire dans les 24 heures. Il y a des choses qu'il faut qu'on laisse pour le lendemain. Il y a des choses qui ne sont pas urgentes. Du coup, peut-être prioriser des choses qui sont urgentes et laisser d'autres choses pour après. D'où le fait de respecter mes horaires de travail et de savoir dire non quand tout simplement ce n'est pas possible. Et ne pas me priver des temps précieux avec ma famille. Me rappeler que oui, je gère les enfants des autres, mais il y a aussi mon enfant. Mmh. Et d'où le fait de dire non quand ce n'est pas possible. J'y travaille.
Du coup, ça, ce serait l'inconvénient. Et du coup, les avantages, ben, à travailler peut-être en crèche pour toi qui es maman dans ta vie du quotidien?
Alors, je pense que ça, c'est une question que mon mari pourrait bien, bien répondre parce que c'est vrai qu'il me dit souvent que toi, tu es avantagée, c'est plus simple pour toi parce que tu sais quoi faire avec notre enfant. Et moi, je n'ai pas de formation. C'est vrai que quand on a un nouveau-né, un premier enfant, d'avoir cette formation et cette expérience dans la petite enfance derrière, ça aide. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être des nouveautés pour des gens normaux, on va dire. Mais que pour nous, ça n'allait pas. Et du coup, bon, je me suis tout de suite trouvée à ma place quand mon fils est né. J'ai tout de suite trouvé les solutions, les réponses à mes questions. Je savais quoi faire. Et je pense que pour une jeune maman, ça, c'est vraiment rassurant et c'est vraiment important. Et cette formation dans la petite enfance m'a beaucoup, beaucoup aidée comment dire, dans l'accompagnement de la croissance de mon fils,
De son
de
développement.
son développement, que ça peut être au niveau émotionnel, au niveau moteur, pour tout ce qui est activité de motricité fine. Je savais quoi faire, je savais à quel moment il fallait proposer quel type, les différents types d'activités, comment l'accompagner à verbaliser, comment dire, ses émotions, parce que gérer un enfant en frustration, c'est vraiment compliqué. Mais même pour revenir un peu plus en arrière, la période post-partum m'a beaucoup, comment dire, m'a beaucoup impactée physiquement, émotivement, parce qu'on est fragile à ce moment-là,
À fleur de peau.
Exactement. Et le fait d'avoir cette formation, il faut savoir que dans ma licence, j'ai aussi eu des formations sur tout ce qui est psychologie, sur l'accompagnement des jeunes enfants dès sa naissance, mais aussi de sa maman. Du coup, ça m'a beaucoup aidée parce que j'avais déjà, au moment où j'avais des questions, j'avais déjà les solutions en tête. Et du coup, ça m'a aidé à ne pas, on va dire, m'effondrer dans les difficultés des premiers mois, et dû au manque de sommeil, dû comment dire, à la peur de ne pas y arriver à gérer voilà, un enfant qui dépend complètement de toi, de ne pas être capable ou tout simplement à la hauteur. Je pense que même si tout le monde ne peut pas gérer, travailler dans la petite enfance, une petite formation pourrait quand même aider parce que ça, c'est vraiment important de savoir où est-ce qu'on va avec un enfant,
C'est ça.
comment on veut l'accompagner, qu'est-ce qui est bien à mettre en place pour qu'il puisse développer ses capacités, parce que c'est pas juste question de ce que nous on a envie de faire. C'est aussi question de ce qu'il a envie de faire, de ses capacités, des choses qui sont déjà innées en lui. Du coup, voilà, comment développer, l'aider à manifester, en fait,
Toutes
tout
ces
simplement, toutes
compétences.
ses compétences.
Super. Moi, je trouvais ça intéressant qu'on dise un petit peu à nos internautes quelle serait ta journée type, si tu pouvais donner une journée type de la directrice, parce que je pense que bien souvent, on pense que bon, on est dans un bureau toute la journée. Voilà. Est-ce que toi, tu as une journée type dans tes journées, on va dire classiques? Parce que je me doute que c'est pas simple.
Alors, je n'ai pas une journée type parce que, bien évidemment, j'ai mon to-do list que je note chaque veille pour le lendemain. Mais je n'ai pas une journée type parce que mes journées, mes programmes changent au fur et à mesure parce que ça peut dépendre des besoins des sections, des équipes, tout simplement des enfants, des familles qui souhaitent avait rendez-vous avec moi, un échange avec moi. Et bien évidemment, y a la plupart des familles envoient des mails pour demander rendez-vous, mais il y en a d'autres qui viennent juste toquer à la porte pour échanger. Et même s'ils partent de l'idée que c'est 2 minutes, finalement, on peut se retrouver à une demi-heure, 1 heure, voilà, encore dans le bureau. Ça peut dépendre des absences des professionnels. Du coup, le manque d'effectifs, il faut aller en section. Il faut aller sur le terrain pour accompagner l'équipe et les aider dans leur mission de la journée. Quand il s'agit de l'absence d'une professionnelle, comment dire, des agents de service, eh ben, il faut remplacer en cuisine. D'où le fait, j'ai envie de souligner ça, une directrice doit être capable de tout gérer, doit être capable de tout, doit tout connaître en fait dans la gestion d'une crèche, dont on va dire aussi la pression qu'on peut subir au quotidien, surtout s'il n'y a pas d'accompagnement au début. Ça peut jouer beaucoup, beaucoup sur notre psychologie, le fait de ne pas y arriver, mais tout simplement parce qu'on n'a pas un accompagnement adapté à nos besoins à ce moment-là. J'ai beaucoup appris, on va dire, sous le chemin, petit à petit, toute seule, mais j'ai beaucoup appris parce qu'il y a quand même des protocoles à respecter. Qu'un enfant ne veut pas tout simplement dire, lui donner à manger le biberon, le repas du midi, le goûter et le soir, c'est bah, tout va bien, au revoir. Il y a quand même beaucoup d'organisation derrière et malheureusement, plusieurs personnes sous-estiment cette organisation qu'il y a derrière. Il faut savoir que bah, gérer une crèche, ça ne veut pas dire tout simplement gérer une équipe. Ça veut dire aussi leur créer comment dire,
un environnement.
Un environnement sain pour qu'elles puissent travailler correctement et que, bah, en fait, ce qu'on fait pour l'équipe va forcément impacter sur les enfants. Parce que si ton équipe va bien, les enfants vont bien aussi.
Tout à fait.
Il faut savoir aussi que, il faut être dans l'accompagnement quotidien avec l'équipe et aussi avec les enfants. Je vais essayer de résumer un peu ma journée type. D'habitude, quand j'arrive le matin, je passe par les sections, je dis bonjour aux enfants. Je passe un peu de temps avec chaque section pour aussi avoir ce moment-là avec eux parce que je ne sais pas dans la journée où est-ce que je vais être. Du coup, voilà, me rendre disponible auprès de l'équipe, de savoir comment elles vont déjà, celles qui sont là, et comment les enfants vont, s'il y a des sujets famille, il y a des transmissions à me transmettre. Après cela, bah, je rentre dans mon bureau, je regarde mes mails, je traite mes mails, et bah, il y a tout ce qui est administratif, hein, il n'y a pas que des mails. Après cela, bah, il faut savoir que dans la gestion d'une crèche, il y a tout ce qui est maintenance. Du coup, c'est comme si vous avez votre maison, surveillée, que bah, c'est en bon état. En plus, il faut penser, voilà, l'exemple, le meilleur exemple pour moi, c'est comme si vous êtes en location. Du coup, vous êtes un locataire qui doit garder tout en bon état. Et vous avez la responsabilité de ce bien-là. Et il faut savoir que nous, la plupart des crèches sont en copropriété, du coup, d'où aussi la responsabilité de la copropriété du bâtiment dans lequel on est. Voilà, quand je parle de ça, je parle des dégâts des eaux. Voilà, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Il faut faire attention à ce que l'équipe soit formée ou soit au courant de tout ce qui est nécessaire à savoir en crèche. Il y a tout un protocole pour les ouvertures en crèche, les fermetures de la crèche, tout un protocole pour la biberonnerie, tout un protocole pour la cuisine. Et nous, en tant que directrice, il faut qu'on soit formé en tout ça. Ou du moins, il faut qu'on soit au courant de toutes les informations nécessaires pour bien gérer la crèche. Du coup, oui, on apprend tous les jours. Et on peut avoir en tête une journée type, mais finalement, notre journée peut changer au fur et à
C'est
mesure
ça.
des contextes qui se présentent.
Puis ça, je pense que ça t'enlève aussi. C'est pas vraiment une routine en fait. C'est pas pas vraiment une routine, c'est-à-dire je pense que ça t'est déjà arrivé qu'on t'appelle au saut du lit, que tu viennes sur l'établissement.
Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça m'est arrivé plusieurs fois parce que quand on est directrice, on a l'impression d'être opérative 24 heures sur 24. On peut recevoir des messages et des appels pendant le week-end de la part des pros qui veulent tout simplement nous informer d'une absence ou d'un retard du lendemain ou du lundi. Du coup, oui, on est sollicité tout le temps. Donc, comme je disais tout à l'heure, le fait d'encadrer aussi, de s'encadrer soi-même et de se dire, bah, il y a des choses que je peux faire, des choses que je ne peux pas faire, parce que je suis aussi maman, je suis une épouse, j'ai mes responsabilités en tant que maman, j'ai mes responsabilités en tant qu'épouse, je ne peux pas enlever tout ce temps à ma famille pour mes missions professionnelles. Je ne suis pas que une directrice de crèche, je suis autre aussi. Du coup, oui, il faut s'encadrer soi-même, il faut aussi encadrer l'équipe, d'où l'urgence à un moment donné de déléguer des responsables de section. Ou de les encourager à créer des groupes, ça peut être sur WhatsApp, juste des textos, pour que
Qu'elle soit plus
elles
autonome,
arrivent
peut-être.
à, oui, pour qu'elles soient plus autonomes, pour qu'elles arrivent à informer peut-être la responsable de section ou juste la collègue qui est du matin ou après pour qu'elles changent les horaires entre elles. Sans forcément devoir me consulter à 6 h du matin. voilà, et c'est vrai que j'ai énormément travaillé sur ça l'année dernière parce que j'étais un peu partout et je me retrouvais un peu partout par la situation. Voilà, et l'équipe n'était pas du tout autonome. C'était, voilà, même pour les petites choses, il fallait m'appeler, malgré qu'elles ont mon planning, hein, mais voilà, c'était un peu compliqué pour elles de prendre certaines décisions sans avoir mon accord. Ce qui est bien aussi, parce qu'il faut quand même savoir que c'est la responsabilité de la direction, tout ce qui se passe en crèche. Et l'équipe, des fois, n'a pas tout simplement le droit de prendre certaines décisions. Par contre, il y a des choses qu'elles peuvent faire en autonomie sans devoir forcément avoir l'accord de la direction. Du coup, il faut les responsabiliser. C'est un travail aussi, c'est un accompagnement au quotidien. C'est du temps, ça demande du temps et de la patience, hein, il faut le dire. Il faut que de l'autre côté il y a un retour positif aussi. Il faut que elle soit disposée
Épanouie
aussi à accueillir, à accepter ce qu'on attend d'elle. Et du coup il y a l'accompagnement vers l'autonomie, mais il y a aussi j'ai envie de dire l'accompagnement vers le fait d'être responsable en tant que professionnel, tout simplement. Être responsable de ses missions, être responsable pas tout simplement du fait qu'on a signé un contrat et qu'on est là aussi pour répondre à certaines missions.
C'est ça.
Et des fois, il y a certaines professionnels qui signent des contrats mais ne savent pas trop comment s'y prendre et concrètement, qu'est-ce qu'on attend d'elles. Du coup, le fait de faire des points, d'où l'intérêt de faire des points réguliers avec elles, à travers des réunions de section, à travers des entretiens individuels avec chacune d'entre elles. Du coup, oui, la vie d'une directrice de crèche, ça demande énormément d'organisation et énormément, il faut être
Dynamique.
dynamique. Il faut vraiment, il faut pas se prendre la tête, je
Je
pense.
pense aussi que au-delà du contractuel, c'est important que toi, oui, en tant que directrice, que tu sois responsable, mais qu'elles aussi savent prendre leurs responsabilités.
Exactement. Exactement. Et malheureusement, c'est pas acquis. C'est des choses qui ne sont pas acquises chez les professionnels. J'ai quand même la chance d'avoir une bonne équipe. Je dis toujours, je leur dis toujours, avoir une bonne équipe, c'est vraiment la chose la plus importante parce que ça permet déjà d'être sereine quand on quitte notre lieu de travail et de savoir que bah, on sait que les personnes qu'on a laissées derrière peuvent comment dire, assurer et sans devoir voilà, rentrer chez soi avec l'inquiétude qu'il y aura un problème. Du coup, oui, c'est vraiment important de les accompagner là-dessus.
D'ailleurs, on va parler d'un sujet qui peut-être fait débat dans l'actualité. On va parler un petit peu du recrutement qui est compliqué. Toi, j'ai bien compris que sur ta crèche, il y a quand même une stabilité, mais quel est ton regard par rapport à tout ce qui se passe en ce moment dans la petite enfance?
Alors, mon regard par rapport à tout ce qui se passe, je pense que il y a un besoin en ce moment de reconnaître que la petite enfance, ce n'est pas juste une garde d'enfants. Et il y a vraiment un besoin de se rendre compte que ce qu'on fait est important. Tout type comment dire, de profession a son importance. Et autant les jeunes enfants, ils doivent avoir de l'importance aussi de l'État, du gouvernement, de tous, parce que c'est de là que tout commence. Il faut penser aux enfants comme un terrain qu'on doit s'aimer en fait, parce que bah, les enfants que nous on, que qu'on accompagne, c'est les hommes, les femmes de demain. Et si il n'y a pas d'investissement sur cette population-là, ben, il n'y aura pas des hommes et les femmes de demain de qualité, j'ai envie de dire, qu'on aimerait avoir en fait. Et je trouve ça triste, ça c'est ce que je pense, hein. Je trouve triste qu'aujourd'hui on doit encore débattre là-dessus. Après tout ce qui a été mis en place dans les années passées. Mais j'espère quand même, je suis positive. Je suis positive. J'espère quand même que ça va changer. Mais je suis vraiment contre déjà l'idée d'embaucher des non-diplômés à la crèche. Je suis complètement contre l'idée qu'il suffit quelques mois d'expérience ou de stage. Dans une crèche ou je sais pas, dans un milieu de la petite enfance pour avoir la capacité, les compétences pour accompagner les enfants. J'espérais que les expériences négatives du passé auraient pu nous apprendre, mais malheureusement non. Mais j'espère que ça va changer et j'espère vraiment que là-haut, au gouvernement, ils vont se réveiller, ils vont vraiment se rendre compte que c'est important ce qu'on fait, ce n'est pas une garde d'enfants, c'est vraiment, comment dire, nous impactons sur les enfants, on a un impact, comment dire, est-ce que je peux dire, on peut changer en fait, on fait partie de ces. Avec les familles, bien évidemment, c'est un travail hein, avec les familles qu'on met en place. Mais on est vraiment dans la création, on va
C'est
dire, entre
ça.
guillemets, de l'homme de demain. Et du coup,
J'aurais même
si.
dit qu'on est acteur du changement.
Exactement.
Parce que c'est vrai que là, on a vu avec la crise Covid l'impact de la fermeture des établissements de jeunes enfants. Donc effectivement, il faut qu'on ait une reconnaissance et pour l'instant, on n'y est pas encore.
C'est ça. C'est ça. Je pense qu'il faudrait que le gouvernement ou les représentants de la petite enfance puissent se déplacer, passer un peu du temps dans les milieux de la petite enfance pour se rendre compte en fait des actions à mener. Parce que c'est bon à dire et à écrire noir sur blanc des choses, mais s'ils ne réalisent pas l'importance de ces actions-là, ça nous amènera à n'importe où. Parce que, comme tu disais, après le Covid, La réouverture des crèches, ça a été vraiment compliqué pour l'équipe de la Petite Enfance parce que, bon, on le sait, on a retrouvé des enfants qui avaient des habitudes et des besoins aussi vraiment importants. Il fallait vraiment les porter pour qu'ils se sentent rassurés. Et ça, c'était pas normal parce qu'un enfant peut se sentir rassuré même quand il est au sol, même quand il joue. Il suffit juste d'avoir un adulte dans la pièce et un enfant est rassuré. Il suffit juste de sécuriser en fait l'espace pour que l'enfant soit rassuré. Il suffit juste un regard pour qu'un enfant soit rassuré. Il n'y a pas besoin du contact physique. Et c'est la difficulté que nous, on a vécu à la réouverture des crèches parce qu'il fallait porter tous les enfants. Il fallait, j'ai envie de dire, des fois aussi, on va dire, on était, entre guillemets, des mamans,
Les
des deuxièmes mamans,
substitutions.
exactement, parce que il y avait des enfants qui dormaient à l'été. Qui jouait mais du coup avec le sein de maman, qui en fait c'était tout en lien avec les parents. Et comment séparer, comment favoriser une séparation avec un enfant qui a ce lien fusionnel avec les parents? C'est dur, c'est compliqué. Et
Surtout qu'on a eu beaucoup d'enfants qui sont nés du Covid. Donc,
exactement, qui ne connaissent pas du tout qu'est-ce que ça veut dire la collectivité, mais même avoir un autre enfant à côté. Et moi, je suis bien placée pour le dire parce que mon fils, il est né en plein Covid, où il y avait pas, on n'avait pas le droit déjà de sortir, de s'éloigner un certain kilomètre de chez soi. Et du coup, il a vu peu d'enfants, à part dans les appels visio. Et c'est vrai que quand il a intégré la crèche, je sais, ça a été dur. Ça a été dur pour lui, premièrement, et ça a été dur pour l'équipe. Du coup, aujourd'hui, d'entendre que n'importe qui, parce qu'en réalité c'est ça, hein, que
Tout à fait.
n'importe qui peut travailler en crèche, c'est quand même frustrant.
C'est ça. Et puis, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est se dire que nous, déjà, en tant qu'éducation de nos enfants, nous sommes des experts. Donc, ça veut dire que n'importe qui peut être un expert de la petite enfance, dans ces cas-là. Et c'est vrai que je trouve ça dommage. Mais bon, on va pas trop s'éloigner du sujet parce qu'il y aura beaucoup à dire sur ça. On sait que c'est quelque chose qui nous chagrine en tant que professionnels de la petite enfance. On va revenir plutôt au thème du départ, être dans la peau d'une directrice de crèche. Mais moi, j'ai une question, je dirais, plutôt simple ou compliquée, ça dépend de comment on l'aborde. Donc, pourquoi toi, tu as choisi le métier d'éducatrice de jeunes enfants?
Alors, quand j'étais plus jeune, je disais que c'était ma passion. Aujourd'hui, je trouve ça assez limitant parce que déjà, ce n'est pas des objets, c'est des enfants. Un enfant peut pas être une passion de quelqu'un d'autre. Pourquoi j'ai choisi ce métier? À la base, je voulais pas être je voulais pas travailler dans ce métier. Parce que j'estimais que c'était trop simple. Je voulais être hôtesse de
Ah ben là, c'est sûr que
Voilà.
là, on part souvent en voyage, hein, mais c'est pas la même chose.
C'est pas la même chose et ça n'a rien à voir avec les enfants. J'ai dû comment dire, revenir sur ma position quand j'ai eu une expérience dans une crèche en Italie. C'était un manque d'effectifs. Je connaissais le gérant de la crèche. Il m'avait vu déjà avec les enfants et il estimait que j'étais portée pour ça. Et du coup, il m'a demandé tout simplement de venir être de renfort pour son équipe en restant au sol, en occupant les enfants pendant que l'équipe faisait l'échange. Voilà, tout a commencé par là. J'ai beaucoup appris de ces mois comment dire, on va dire pour moi, ça a été un stage, même si c'était pas vraiment un stage. Mais j'ai beaucoup appris de ça parce que le fait tout simplement d'être avec les enfants, me faisait sentir à ma place. C'est juste que, en fait, je ne peux pas l'expliquer, c'est quelque chose qu'il faut ressentir. Du coup, je me suis dit, il faut que je me forme à cela, il faut que j'apprenne plus en fait de ce que ça veut dire. Il faut que ça peut pas être juste un ressenti. Je ne peux pas travailler avec parce que je voyais les besoins, les difficultés auxquelles j'avais aucune réponse, auxquelles je ne pouvais pas en fait, je ne pouvais pas les accompagner tout simplement parce que je ne savais pas quoi faire. Et c'est de là que j'ai décidé de m'inscrire à la fac pour obtenir ma licence. Et plus j'étudiais, plus j'apprenais, plus j'aimais en fait ce que j'apprenais. C'est vrai, je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de théorique en Italie, mais j'ai envie de dire le fait de connaître l'histoire déjà de Montessori, Maria Montessori, c'est en fait, c'est une des personnes qui m'a... Personne, oui, c'est une personne
Mais tu réponds
qui
un petit
m'a...
peu à ma question. Je te laisse poursuivre. En fait, j'allais te demander, est-ce que tu as une référence dans le domaine de la petite enfance qui, toi, t'a inspiré ou qui t'inspire au niveau de tes valeurs?
Oui, bah oui, du coup, c'est Maria Montessori parce que tout simplement, comme je disais, je viens du Bénin. Je suis originaire du Bénin. J'ai grandi dans une grande famille où il y avait quand même des besoins auxquels on pouvait pas, on va dire, la famille ne pouvait pas
Répondre.
répondre. Et du coup, on s'amusait avec le peu qu'on avait, en fait. On s'amusait avec, en fait, ce que la nature
Donner.
nous donnait. Pourquoi Maria Montessori est ma référente? Parce que toute sa pédagogie vient des choses du quotidien. Tout ce qu'elle a mis en place vient de ce qu'on a apporté des mains, en fait. Et ça me ramène à ma valeur, à mon enfance, de me dire, il n'y a pas besoin d'aller dépenser 50 euros dans une boutique pour que l'enfant soit content. L'enfant est content tout court à partir du moment où on lui donne un peu d'attention. Il faut savoir que nouveau-né, juste à le regarder, ça le rassure, comme je disais tout à l'heure, et il est content pour ça. Il est vraiment heureux. Et nous, aujourd'hui, on a perdu un petit peu ça. On a perdu le sens d'être heureux avec
Peu.
peu. On a perdu le sens d'être bien avec ce qu'on a. Et c'est pour cela que moi, j'ai énormément apprécié pendant mon parcours d'études Maria Montessori. Parce que je pense qu'elle nous ramène quand même beaucoup, beaucoup à la normalité, j'ai envie de dire. Et aux choses concrètes,
De la
basiques de
vraie
la vie
vie.
quotidienne.
Ok, bah merci Corinne. Je pense qu'on va s'arrêter là, parce que sinon je pense qu'on est là pour des heures. Juste, si tu avais un dernier mot pour les personnes qui s'intéressent vraiment à notre métier, parce que c'est un vrai métier, on n'arrête pas de le redire,
C'est
mais
vrai
c'est
métier.
un vrai métier. Donc, est-ce que tu aurais un mot, un conseil, si tu devais donner un conseil à une professionnelle de la petite enfance qui souhaite débuter ou qui souhaite tout simplement évoluer et monter en compétences?
Je pense qu'il faut y croire. Il faut croire en soi. Il faut croire en soi. Il faut croire en ce qu'on est capable de faire. Il faut pas se laisser dépasser par les difficultés du quotidien. Parce que si on regarde que ça, on peut partir, on peut tout quitter. Même moi, hein, je pourrais tout quitter le demain. Parce que il faut le dire, c'est dur. C'est très, très dur. C'est très, très compliqué de gérer une équipe, de gérer plusieurs têtes, c'est des personnes quand même. Quand je dis équipe, c'est des personnes. Et en plus de cela, des familles, des enfants. Parce que oui, nous, en tant que directrice, on gère des familles. On gère aussi les enfants, on gère aussi une équipe. Mais les équipes aussi, premièrement, gèrent les familles. Parce que pendant les temps de transmission, elles ont à répondre à leurs questions. Elles ont à les accompagner aussi dans tout ce qui est parentalité. Il faut pas regarder. S'il y a vraiment un amour pour ce métier, si tu as vraiment un amour pour ce métier, il ne faut pas juste regarder les difficultés. Tout métier a ses difficultés propres à soi, en fait. Et le métier de la petite enfance est un métier, c'est une profession, et elle a ses difficultés aussi. Du coup, si tu as un amour pour ton métier, en fait, pour ce que tu fais en ce
Pour
moment,
chez les autres, pour les autres aussi, j'ai
continue.
envie de dire que c'est de l'humain.
C'est ça, continue. Je pense que ce qu'il faut premièrement pour ce métier, c'est, comme tu disais, c'est l'humain, c'est être humain. Je sais que les jeunes, quand elles viennent en entretien, on leur demande pourquoi vous avez choisi ce métier. La première réponse est, j'aime les enfants.
J'aime les enfants.
J'aime les enfants, ça ne répond pas à tout. Déjà, si je peux me permettre, il ne faut pas dire que ce n'est pas une réponse à donner aux
Oui, on
entretiens.
adore, hein, délicieux les enfants.
Ce n'est pas une réponse à donner aux entretiens parce que c'est un métier, mais c'est des personnes qu'on accompagne au quotidien. C'est des vies qu'on porte dans nos bras, en fait. C'est des trésors de quelqu'un qu'on a avec nous dans la journée pour quelques heures. Il faut savoir que ces enfants nous voient, comment dire,
Plus que leur
plus
famille.
que leur famille. Et le but, parce que mon message, ce n'est pas de remplacer quelqu'un, de remplacer une maman ou un papa. Il y a une maman dans la vie d'un enfant, il y a un papa dans la vie d'un enfant. Mais ce que j'ai envie de partager, c'est il faut vraiment, vraiment avoir de l'empathie si on veut faire ce travail. Il faut vraiment être à l'écoute si on veut faire ce travail. Il faut avoir de la patience avec la P majuscule si on veut faire ce travail. Et il faut être organisé. Et savoir reconnaître et observer. La qualité de l'observation est vraiment importante. C'est vraiment important de savoir observer parce que de l'observation, on apporte des actions. Et si on n'est pas organisé en cela et on n'a pas cette compétence, bah, il faut travailler dessus parce que sinon, ça nous amènera n'importe où. On va rester au même stade de formation ou de connaissances qu'on a. On ne va pas évoluer. Et pour accompagner l'enfant, il faut tout simplement être à sa disponibilité.
C'est très beau ce que tu dis, Corinne. Dernière question, après on va se quitter. Justement, est-ce qu'il y a moyen d'évoluer au-delà d'être directrice?
Oui, je pense qu'il y a un moyen d'évoluer. On peut devenir responsable de secteur,
Et
je
c'est
pense.
quoi responsable de secteur?
Responsable de secteur, tout simplement, c'est en tant que directrice, on gère une équipe de crèche, du coup, sur place. En tant que responsable de secteur, on gère différentes crèches. Il faut les mêmes qualités, compétences en tant que. Si vous avez les qualités pour être directrice, c'est sûr, vous avez les qualités pour être une bonne responsable de secteur. Parce qu'il faut de l'écoute, il faut être disponible, il faut donner son temps aux crèches, il faut s'intéresser, du coup, d'où l'intérêt de faire des points hebdomadaires avec les crèches pour connaître les besoins afin d'apporter des actions qui puissent aider en fait les directrices des crèches. Il faut tout simplement se montrer disponible vis-à-vis de son équipe. De direction pour que les projets qu'on a envie d'aboutir puissent se mettre en place et se concrétiser tout simplement.
Très bien. Mais écoute, Corinne, je vais te dire un grand merci. Comment dire en italien, grazie mille. Pour ce petit temps d'échange, moi c'est avec plaisir que je t'ai reçu aujourd'hui dans ce nouvel épisode sur Éduque Demain et j'espère pourquoi pas te revoir prochainement.
Avec un grand plaisir.
Mais écoutez, à bientôt et au revoir Corinne.
Au revoir.